Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis Philippe Lyotard, je suis enseignant-chercheur à Lyon, pour les gens qui ne savent pas. Je travaille sur le corps essentiellement dans ce projet. Et donc là, la réflexion, c'était justement de travailler sur la question de la violence punk. Et peut-être que par rapport aux interventions précédentes, je vais plus particulièrement me centrer sur le punk, en tout cas sur comment on peut y réfléchir. Et en essayant... Alors, l'option que j'ai prise aujourd'hui... C'est une option qui est plutôt, que j'inscris, vous me direz, les gens qui ont l'habitude de suivre, ce que vous en pensez, en tout cas les autres aussi, vous pourrez bien sûr. Mais j'ai plutôt essayé de travailler, de faire cette intervention comme une forme aussi d'auto-réflexion sur ce qu'on est en train de faire depuis 4 ans, enfin depuis 2 ans maintenant, et qu'on va prolonger un certain nombre de temps. Et la tension que j'ai essayé de présenter là, c'est ce qui va se jouer en termes de corps exposé, l'exposition du corps punk, qu'on a vu d'ailleurs dès la première question sur les hooligans, est-ce qu'il y a des corps qui peuvent se présenter dans la violence ou présenter de la violence ou être perçus comme violents. Et il est bien évident que d'emblée, le corps punk fait effraction dans l'ordre social et il y a une sorte de violence qui est exercée sur la société simplement par le fait de paraître. Et quand on regarde les archives des fins 70, début 80, les archives télévisuelles notamment, on voit très bien comment les punks font peur. D'ailleurs, la France a peur, ça a été l'occasion de rassembler comme ça un certain nombre de chansons. Alors l'idée, du coup, alors j'ai mis corps exposé et corps vulnérable, parce qu'il y a aussi une vulnérabilité qui se construit, qui peut apparaître. On a eu quelques points qui ont été présentés là, avec l'intervention précédente, autour par exemple de tout ce qui est rixe, baston, prise de drogue, mode de vie, etc. Et je vais commencer par quelques remarques autour de ce que j'ai appelé des éléments d'auto-analyse collective. Parce que l'idée de la violence, on peut la poser effectivement, la voir de l'extérieur, se dire, bien, je te remercie, je te remercie d'avoir fini ta cigarette rapidement. Et en fait, je vais faire une première remarque. Alors, je fais des allers-retours, mais la première remarque, c'est que tout est objet d'étude. Pour moi, il n'y a pas d'anecdote. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin légiste, je suis anthropologue, et tout est objet d'étude. La moindre réalité, du moment qu'elle est réalité humaine, elle va devenir un élément de compréhension de la société, même si ça paraît marginal, et surtout si ça paraît marginal. Et surtout que si un mec saute dans un concert, il ne saute pas tout seul dans un concert. Quand on regarde les images de concerts, il y a des mecs qui sautent tout le temps, partout. Il y en a qu'on laisse tomber, qui s'écrasent, il y en a qu'on retraque. Voilà, donc c'est quelque chose qui, pour moi, participe complètement de la culture punk, et ça, en ce sens-là, c'est complètement révélateur. Et ce qui m'intéresse par rapport à la communication de Dominique Baudin tout à l'heure, c'est qu'on apprend la violence. Et bien là aussi, on apprend un certain nombre de comportements, on intériorise une certaine manière d'agir, et en ce sens, ça n'est pas anecdotique. Du coup, notre projet, dans lequel donc, je suis depuis le début, c'est un projet qui est sur le fil du rasoir. Quand je dis sur le fil du rasoir, et je vais prendre des exemples très concrets, c'est que nos journées d'études, et là encore une fois, Dominique Baudin fait un point d'appui là-dessus ce matin, il dit « je m'attendais à être entouré de punk, à ce que ça bastonne, etc. » Et là, c'est très cool, sauf que c'est pas toujours très cool. La première journée qu'on a faite ici, il y a des gens qui sont plus revenus parce qu'ils ont été interpellés par des punks dans la salle. Et quand on est universitaire, on n'a pas l'habitude d'être interpellé. Un étudiant qui nous interpelle, on le fout dehors. Enfin bon, on le fout dehors. On peut aller. Taisez-vous. Commencez pas là. Hein. Bon. Donc les étudiants qui perturbent, ce sont des perturbateurs justement. Et là, il s'est joué tout de suite, dès les premières séances, il s'est joué des interactions auxquels les universitaires n'avaient pas l'habitude d'être confrontés. Et puis, il s'est passé quelque chose à la dernière journée d'études, il y a un mois. Il y a quelques personnes qui y étaient, alors tout le monde n'est pas là, mais à Caen à Caen, il y a un punk, alors j'ai appelé le fuck punk à crête Oliver, que je caractérise comme un analyseur de ce qui s'est joué. Un analyseur de ce qui s'est passé entre nous dans ce groupe de travail. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai pris plusieurs images pour les gens qui n'étaient pas là. Alors, Oliver, il est... Voilà, vous voyez, il a encore laissé des traces. Donc, Oliver fait un bœuf avec Luc, Solveig, Alice, tout le monde s'est mis autour. Et avec ses copains qui sont dans la salle. Et puis, en fait, ça a déclenché quelque chose. Déclenché quelque chose par le fait qu'à un moment, il a joué le punk à crête jusqu'au bout, tout au long de la journée. Ce qui a posé problème. Quand il est arrivé dans la salle, à la table ronde à laquelle il devait participer, il s'est installé en levant les doigts, en criant « fuck off », ce qui est Alors, c'est totalement original du point de vue universitaire, c'est complètement banal, je dirais, du point de vue de la manière de se présenter, de dire, allez vous faire foutre, je vous emmerde, et puis je joue aussi, je joue bien mon rôle. Ce qui a supposé des interactions. Par exemple, Christophe Pécou qui est allé jouer le médiateur. Et oui, il est allé jouer le médiateur parce que Christophe est universitaire, il sait ce que c'est, donc il s'est dit, il faut calmer le jeu. Donc il est allé s'asseoir pendant que quelqu'un parlait, il est allé détourner un petit peu le truc, il a dit, attends, bon, comment ça va dans la famille, tout se passe bien, tout ça. Bon, donc il a joué le médiateur social. Et puis le moment, il y a eu un moment que j'ai réussi à photographier, il y a un moment qui a conduit à l'exclusion du punk perturbateur, c'est le moment où il allume son pétard sur scène. Et là, ça passe plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est plus acceptable, qui n'est plus supportable, y compris par nous-mêmes. Je ne parle même pas de l'intervention qui a été faite par les personnes de la médiathèque, qui légitimement pouvaient dire on ne fume pas dans un établissement, que ce soit un pétard ou autre, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'accueil de public. Néanmoins, pourquoi je prends ça? Parce que ça produit de la violence au sens où tu disais tout à l'heure, Dominique, une violence feutrée. Il y a des gens qui étaient mal à l'aise, il y a des gens qui étaient tendus. Ce n'était pas une violence physique, elle s'est produite après de façon un petit peu ritualisée, alcoolisée, etc. Il y a eu quelques échanges de coques physiques, mais bon, c'était en dehors du colloque. Et ça, pour moi, c'est révélateur de qu'est-ce qu'on est en mesure d'accepter, qu'est-ce qu'on est en mesure de jouer autour de ces interactions, et qu'est-ce qui fait violence, justement. Parce qu'on a bien vu que dans le groupe, dans notre groupe, et dans les gens qui étaient présents, il y a des gens que ça a fait rire, il y a des gens qui étaient dans le truc, et puis il y a des gens que ça a beaucoup gêné. Donc ça signifie aussi que tout en travaillant sur le punk, et pour un certain nombre de personnes, tout en étant punk soi-même, il y a des comportements punk qui ne sont pas acceptables, ou jugés problématiques. Autre élément de la violence punk, je pense que la question de la violence est un élément du discours punk. Un élément du discours punk, et j'ai pris une petite vidéo. Alors je vous demande d'écouter, parce que c'est un montage, et après je commenterai le montage.
En tant que ministre de l'Intérieur, je dois garantir l'ordre public, je le ferai, et les casseurs ne doivent s'attendre à aucune faiblesse de notre part. Le spectacle d'un certain nombre de voyous qui polluent des manifestations, qui cassent, qui démolissent et qui s'en prennent à des fonctionnaires ou à des militaires de la gendarmerie est tout à fait scandaleux.
Thank you.
continuer. Mais non, parce que c'est coupé. Donc, de toute façon, même si je laisse. La vidéo est coupée. Je t'emmerde. Donc, j'ai trouvé intéressant de prendre ça quand je parlais de la façon dont la violence est un élément du discours punk. Ça, c'est un montage de 2007. Le concert de 88. Donc 2007, c'est après les émeutes urbaines, et on reprend cette chanson d'OTH avec un collage, vous voyez, collage d'images, collage, ça commence par un discours de Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il y a ensuite des images de Fox News, donc des images de violence, ce qu'on appelle violence urbaine, des images de violence policière, et tout ça se construit pour produire un élément du discours punk, au sens où la violence est intégrée à ce travail, une violence qui peut se traduire par des violences physiques, on l'a vu, des violences institutionnelles, des violences policières. Et donc il y a quelque chose qui, pour moi, participe d'une certaine manière à cette socialisation par la violence dont je parlerai un peu plus tard. Donc là, c'est juste les points, hein. Concert 89, et puis mise en scène 2007, et quelque chose qui va s'inscrire en fait dans un rapport à la rébellion. J'avais pris cette image que j'ai déjà projetée, donc c'est des choses qui ne sont pas nouvelles pour vous. Vous voyez, en 2012, par exemple, ça c'est en Suisse, alors vous allez me dire, on n'est pas en France, mais bon, c'est la frontière, hein, c'est à Genève. Hein. Mais la façon dont on met en scène, finalement, la rébellion avec la figure du punk, à Crète, à Clou, etc. Bon, et puis derrière, bien sûr, le rapport à la police. Et là, on a d'une certaine manière une sorte de violence fondatrice de la culture punk. Une violence fondatrice de la culture punk avec ce rapport à la rébellion. Alors bien sûr, des choses que vous connaissez, hein, le concert de 89 des Bérus à Paris, qui tourne, en ce moment ça tourne cette vidéo, elle a plus de 5 millions de vues sur YouTube, avec donc surtout la partie porcherie. Et alors, je me suis dit quand même, on en a parlé, c'est juste rajouter ça vite fait, c'était le stade de San Paoli en fait à Hambourg, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Donc San Paoli, juste j'ai pris quelques images pendant que vous posiez des questions. En fait, c'est vraiment intéressant parce que là on a effectivement quelque chose qui est complètement original et qui pose une forme de légitimité de la violence. C'est-à-dire que la violence est légitime. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une violence contre les nazis, contre l'extrême droite. C'est Nazi-Raus, c'est quelque chose qui est très précis, présent en Allemagne, très, très construit politiquement. Donc vous voyez, avec des supporters qui sont vraiment dans une logique d'adhésion au club de San Paoli avec... Alors, vous avez vu donc la tête de mort, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le logo du club, Punk Rock San Paoli. Alors là, j'ai pris un petit clin d'œil pour Dominique avec le Tché, hein, et je me suis posé la question, mais tout à l'heure, c'est vraiment en écoutant, hein, alors quelque chose qu'on a déjà abordé, qui est de l'ordre de l'international punk, en termes de combat politique. Parce que là, on a un lien qui peut être fait avec les Marseillais. On a aussi un lien, vous le voyez, en haut, avec le Celtic de Glasgow, avec les clubs qui sont posés comme justement des clubs opposants de gauche. Vous voyez, et c'est pas anodin qu'on ait ça. Et donc on voit bien que là, l'engagement punk dans les stades est un engagement politique, alors qui en France est relativement anodin, mais qui existe, mais qui est anodin. Voilà, destroy fascisme, c'est très clairement des slogans, des drapeaux qu'on va avoir. Alors cette violence, pour revenir à ma trame, cette violence des corps punks exposés, des punks qui font peur. Ils font peur, les gens changent de trottoir, etc. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Hein. Bon, c'est... Voilà, dans le métro... Mais oui, mais c'est tout à fait vrai. Hein. Une anecdote, je ne sais pas si je l'avais racontée. J'avais rendez-vous avec quelqu'un pour l'interviewer, quelqu'un qui était tatoué, scarifié, etc. Et il y avait une jeune femme devant moi dans le métro. Elle rentre dans le métro, elle va dans la rame suivante. Et je rentre. Je m'assois et en fait, il y avait le mec avec qui je venais faire l'interview, on se retrouve dans la même rame, et la jeune femme a eu peur simplement de sa présence, en fait, alors qu'il était tranquille avec sa capuche. Bon. Comment ? Non, il n'avait pas de drap, mais bon. Alors du coup, alors là aussi, toujours dans l'interrogation, parce que le fait qu'on soit en interaction régulièrement, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais quand tu nous montres des images, ça nous bouscule un petit peu. Alors, moi, je ne pensais pas que les punks pouvaient être bousculés par des gens qui se suspendent ou autre. Par exemple, qu'est-ce qui fait violence quand je présente Tiamat qui s'est coupé l'oreille et le nez ? Qu'est-ce qui fait violence ? Puisque c'est dans une logique de construction d'elle-même. Ce n'est pas dans une logique d'automutilation. Ah, vous voyez, ça renvoie à ce que disait le médecin tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que la personne est victime ? La question qui a été posée. Je m'implique sur moi-même quelque chose ou je m'applique quelque chose qui peut effectivement... modifier mon corps, mais la cicatrice que je produis est une cicatrice souhaitée, elle n'est pas accidentelle. Du coup, ça interroge vraiment sur le sens que prend ce qui peut être perçu comme une violence exercée sur le corps. Alors, qui peut renvoyer bien sûr aux altérations, tout ce qui renvoie aussi aux suspensions, par exemple. Quand je parle d'endorphines sous forme invasive, c'est effectivement le fait de s'envoyer les crochets sous la peau, le fait de se retrouver suspendu avec quelque chose qui se passe qui est extrêmement intense. Qu'est-ce qui gêne ? Qu'est-ce qui nous dérange ? Et ça, ça exerce de la violence sur le public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir. Il y a des gens qui sont là, mais si je mets les images, ils vont baisser les yeux. Parce que c'est trop fort. Non, non, j'en ai pas mis justement, parce que... Non, il y a des chochottes aujourd'hui. Non, non, c'est bon, je ferai pas. C'est marrant, parce que j'ai pas fait exprès, mais Daniel Darc, vous voyez, je prends Daniel Darc justement, parce que là, j'ai pris deux images. Justement, sa scarification exercée sur scène en 1980 ici, qui est devenu un tatouage, puisque le tatouage détourne la cicatrice. Et puis, la croix qu'il a fait faire en branding, le branding, vous savez, c'est offert, c'est quelque chose qui est marqué au fer rouge sur la peau. Là aussi, c'est sur scène, c'est son dernier concert à l'Olympia. Donc c'est quelque chose qui, on parlait de la mise en spectacle tout à l'heure, je ne sais plus qui posait la question, mais effectivement, il y a des gens qui n'ont pas supporté de voir ça à l'Olympia, de voir quelqu'un qui se fait cramer pour faire une croix, qui rentre finalement dans une démarche qui est la sienne, de pousser un peu le public, de pousser la performance, d'être au-delà de la musique, d'être pas seulement sur la musique. Et puis, alors ça, c'était juste une petite Gigi Allin, Gigi Allin dont tu parlais tout à l'heure. Alors ça, c'est donc Gigi Allin en fin de concert, hein, qui s'ouvre la tête à coups de bouteilles de bière, etc. Du coup, pour revenir plutôt, paraître que sur l'anecdote et un petit peu sur l'analyse, l'idée c'est de penser la figure du punk, la figure des punks dans leur variabilité, comme une représentation incarnée d'une certaine forme de violence. C'est-à-dire comme si le fait d'être punk, le fait de paraître punk, ça projetait de la violence sur l'entourage non punk, sur les autres. Avec d'abord, et ça on ne peut pas ne pas le constater, il y a d'abord une perception assez partagée d'une certaine violence punk. Alors cette certaine violence punk, elle vient pas de rien. Hein. Là j'ai mis plusieurs axes. Hein. Il y a toutes les bagarres. À chaque fois qu'on a fait une journée d'études locale, que nous rencontrent les anciens, ils nous racontent les bagarres au concert pour rentrer sans payer, les bagarres contre le KCP parce qu'il y avait aussi des frites, on se fritait avec des gens qui avaient idéologiquement pas les mêmes points de vue. Et puis idéologiquement on voulait pas payer parce que 25 balles c'est trop cher, bon, etc. Ouais, c'est encore cher. Bah oui. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans des réalités et puis quand même dans une histoire. C'est-à-dire qu'une histoire du mouvement, c'est aussi une histoire des luttes. Et l'association, par exemple, l'association des punks, alors on l'a vu dans les stades, mais aussi l'association des punks, avec des, par exemple dans les manifestations, avec les groupes anarchistes ou les groupes autonomes, c'est quelque chose qui effectivement marque des images et donc fixe des représentations. C'est aussi l'histoire d'une jeunesse jugée violente. Alors... la violence punk, on pourrait dire, c'est passé, c'est 80 ans. Il y a toujours cette représentation d'un type de jeunesse qui est à pacifier, à contrôler. Et la violence de la jeunesse, avec les petits agités, hein, des gens justement, qui vont pas se laisser faire, qui vont être toujours dans la revendication. Mais, et c'est le second point de mon intervention, il y a aussi une exposition à une violence certaine. Et ça, c'est quelque chose qui est rarement posé. Mais le fait que les punks ont été... victimes de violences et sont exposées à des violences, historiquement. Alors, bon, je vais faire juste un petit... Tu y étais ? Tu faisais, et ils sont où les 199 autres aujourd'hui ? Ils sont morts ? Alors, du coup, là, voilà, je voulais présenter autre chose. J'avais prévu une petite vidéo, là aussi, qui était assez intéressante, de 86, donc au même moment que le concert à peu près d'OTH, 86, par les BRU, en fait c'était Baston, mais ce que je trouve intéressant c'est que Laurent qui lance la chanson un peu comme le montage de 2007, contre les violences policières, contre les violences d'État, en traitant Charles Pasqua de salaud, d'enculé, et il dit vous connaissez ce mec Pasqua, donc il lance un petit peu le « et », il part sur Baston, et c'est quelque chose qui s'inscrit là aussi, on parlait tout à l'heure de l'apprentissage, de la socialisation, dans une culture qui fait qu'en tant que punk, on va se positionner contre la violence d'État et par conséquent, la violence qu'on peut exercer sur la police devient légitime. Elle est légitime parce que c'est une réponse à quelque chose qu'on a vécu. Alors, dans l'histoire des punks, quand je dis dans l'histoire des punks, c'est par rapport, là je limite, je ne fais pas des punks en général, c'est par rapport aux punks que j'ai interviewé depuis qu'on travaille sur ces questions. Eh bien, c'est une chose qui m'a marqué parce que spontanément, c'est arrivé dans les histoires de vie, dans la façon de raconter. C'est que un certain nombre, une majorité de personnes m'ont raconté qu'elles étaient exposées à la violence des autres. Alors qu'on les voyait comme violents, mais qu'ils étaient exposés à la violence des autres. Et les autres, vous allez voir, c'est très simple. Il y a deux catégories de personnes. C'est les flics et les nazis. Je reprends la formule des gens interviewés. Hein. Les flics et les nazis. Et dans les interviews, donc, il y a une violence des affrontements. Il y a une peur. Le fait de dormir avec une batte de baseball dans son sac de couchage, c'est juste parce qu'on se dit qu'on peut être réveillé par les flics ou par les nazis, ou par l'extrême droite. Là, on est dans les années 80. Je parle de gens qui sont dans les squats des années 80, début 90. Et c'est ça qui fait que cette violence, elle produit, enfin, c'est le résultat d'une vulnérabilité au sens où c'est une exposition des personnes à des potentialités violentes, de violence physique, mais aussi aux conditions de vie. Aux conditions de vie, alors tu dis je suis survivant, etc., mais il y a des conditions de vie qui vont effectivement altérer l'espérance de vie. Hein. Comment ? Ben oui, c'est ça, tu dois te protéger, mais après, bon, tu es quand même dans des situations qui produisent de la vulnérabilité quand tu dors dehors, etc. Il y a des modes de vie. Il y a des modes de vie. Non, je parle des gens que j'ai interviewés. Je ne t'ai pas interviewé, donc tu me raconteras. Bon, bien sûr, tout ce qui est défonce, etc., on en a parlé. Et puis, l'ensemble des violences tournées contre soi-même, y compris si ces violences tournées contre soi-même sont des violences qui s'inscrivent dans une logique peut-être de défi, de dépassement, etc. Alors, pour aller au bout, là, pour terminer, j'ai quasiment bouclé. Dans les représentations les plus convenues, les punks sont violents. Il y a une association entre punk et violence, et association qui se poursuit très récemment, dans les années 2000-2010, notamment autour d'un effet, d'une réalité sociale qu'à mon avis on pourrait creuser dans ce groupe. C'est notamment l'association avec ce qu'on a appelé les arrêtés anti-mendicité, qui sont toujours justifiés par rapport à ce qu'on appelle une mendicité agressive, et qui visent le plus souvent des jeunes groupes, qui visent dans les municipalités où on prend ces décisions, ils ne visent pas n'importe quelle mendicité. Alors, il y a les Roms, mais il y a aussi les punks à chiens qui vont traîner devant le Monop et qui vont demander de quoi payer la bière. Donc, cette mendicité agressive, elle est associée aussi à des groupes, à des populations, parmi lesquelles figurent les jeunes punks ou les jeunes en errance, pour prendre un terme sociologique. Cette socialisation, cet apprentissage, et là, je suis d'accord avec Dominique, on apprend la violence, on l'intègre progressivement parce qu'elle prend du sens. Eh bien, il y a effectivement une socialisation à la violence et par la violence, mais je pense qu'il faut toujours se poser la question, la violence de qui est perçue par qui ? Qui perçoit cette violence ? Parce que la violence, effectivement, selon notre usage de la violence, notre apprentissage familial, local de la violence, on ne va pas réagir de la même façon. Alors, de quelle violence parle-t-on ? J'ai quasiment terminé. Il y a la violence perçue, il y a la violence subie, il y a la violence légitime, la violence produite, tout ça, finalement, ça nous amène à interroger les acteurs, les actrices, en fonction de ce qu'ils vont dire de la violence. Et on ne parle pas de la même chose selon qu'on parle, y compris tout à l'heure quand on parlait des « je vais aux urgences, je ne vais pas aux urgences », qu'est-ce qui fait sens dans la violence, en fait, ou qu'est-ce qui permet simplement de caractériser la violence pour des personnes qui, objectivement, ont pris des coups, par exemple. Ben, ça aussi, ça renvoie à la singularité de chacun. J'ai pris des coups dans le... Bon, là, je me suis fait casser le nez... C'est un coup qui est mal parti ou qui est mal arrivé, mais je ne sens pas forcément que ce soit particulièrement violent, parce que j'ai cet usage de la violence, cet apprentissage. Et je me rappelle d'un colloque qu'on avait fait à Rennes avec Dominique, où justement il y avait un hooligan qui était là, et c'était vraiment intéressant de voir comment finalement des choses qui pour nous auraient paru extrêmement violentes, pour lui c'était une banalité, quoi. C'était le fait de... Donc ça fait partie des choses aussi à interroger. Et surtout... J'en ai déjà dit deux mots par rapport à tout à l'heure avec la police, la légitimité de la violence des punks qui disent réagir aux violences policières, aux violences d'État. La violence, pour moi, est aussi une réponse. C'est une réponse à une situation, c'est une réponse à une tension, c'est une réponse à quelque chose. Je vais, à moins d'être psychopathe et d'être spontanément violent, en général, sociologiquement, on est dans des réponses à quelque chose, que cette réponse soit individuelle ou collective. La question qui se pose donc, c'est... Ben, la violence punk ou les violences qui tournent autour du punk sont des réponses à quoi entre 1976 et 2017 par rapport à notre projet. Je vous remercie.
Merci Philippe, qui a permis, avec cette présentation qui a permis de se recentrer sur la scène punk. Et puis pour ceux qui sont un peu frustrés de ne pas avoir vu cette vidéo avec les berrues qui parlent de Pasqua, elle est dans ma présentation cet après-midi. Et donc, maintenant, question du public.
Je voulais juste une précision sur la date où a été composé le montage, le premier.
2007. Le montage est de 2007 avec des images de concert de 89. Et après, c'est des images d'actualité entre 2005 et 2006, au moment des émeutes urbaines. Voilà. Je l'ai mis au début, Protus Productions, je crois. En fait, Non, c'était sur YouTube, c'est des vidéos YouTube qui sont... Il y a toute une série comme ça de vidéos sur les violences qui sont entrecoupées de morceaux punk, en fait. Et je trouvais intéressant, par exemple, alors, j'en ai pas parlé, mais je trouve que ce serait intéressant aussi de faire dans notre travail de la comparaison entre la façon dont on utilise ces images punk d'archives et puis des images de rap. Parce qu'on a aussi des montages avec du rap qui est extrêmement violent en termes de propos vis-à-vis de la police. Et bon, et pour moi, ça rentre dans la même logique sans qu'on utilise les mêmes supports culturels et musicaux.
Parce que là, ce qui est intéressant, c'est le décalage. Donc, aussi la situation.
Alors, est-ce qu'il y a décalage? En tout cas, il y a collage. Je ne sais pas s'il y a décalage, mais il y a collage. Et collage, on l'a bien vu, le collage, ça fait partie de l'esthétique punk. Ah oui, on colle, on juxtapose, et l'association des mots, des éléments, des images, des paroles, parce qu'il y a les paroles, d'OTH quand même, qui vont justement produire du sens. Alors ce sens, ça peut être effectivement rien de change, il y a toujours l'appareil. Bon, 86, on a Pasqua, et là, 2006 ou 2005, on a Sarkozy, on a le même propos, et on a la même réaction d'une partie de la jeunesse face à ces propos. Attends, on va prendre dans l'ordre.
Oui, Philippe, je crois que... Alors, il y a plein de réflexions par rapport à ton one-man show. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle du début, déjà. C'est-à-dire qu'à mon avis, le punk, comme il va casser les codes, il est forcément violent, vu qu'il casse quelque chose. Et puis après, j'ai fait une recherche sur la crête. Je crois que c'est toi qui avais amené ce sujet de la crête. Et du coup, j'ai débouché sur la première personne à avoir fait cette interaction avec le public dans la musique punk. Et on remonte à Iggy Pop, le Stooge, qui a été traité de clown un peu à mon désarroi tout à l'heure. Mais la première personne qui s'est projetée dans le public, et en fait, on est dans une analyse à la Antonin Artaud, faire réagir le public, c'est les Stooges, c'est Iggy Pop. C'est le premier qui va se... Voilà. Ce n'est pas un hasard, à mon avis. C'est le premier qui va avoir une image d'un jean déchiré sur une pochette de disque. On est en 72, 73. Et après, la crête dont tu as parlé un jour, effectivement, c'est Taxi Driver. L'une des premières crêtes dans le punk, c'est à Mont-de-Marsan, 77, les Maniacs. Et quand tu fais un tout petit peu une recherche sur la crête... C'est très étonnant. Ce sont des aviateurs pendant la Seconde Guerre mondiale de la Royal Air Force qui avaient une sorte de no man's, une sorte de mission ultime d'aller bombarder. Et peut-être qu'ils en revenaient pas, donc ils se rasaient la tête. Voilà. Je trouve que le sujet violence punk, le punk est forcément kamikaze, mais il va casser les codes. C'est le but de la musique punk premier. Hein, voilà. Et ensuite, quand on parle de Gigi Allin ou de Daniel Darc, c'était plutôt des épiphénomènes de réaction à un moment où Gigi Allin, c'était tellement mauvais qu'il voulait faire réagir le public et donc il essayait de faire quelque chose. Et Daniel Darc, il l'a raconté 10 fois, c'est-à-dire qu'au Palace, il se faisait tellement chier, il a voulu faire réagir le public... Quand il fait sa scarification, ça a failli très très mal se passer parce que il n'a pas senti, il faut rester très très peu de temps. Et puis ils ont fini aux urgences après. Donc là, j'imagine que le médecin urgentiste l'a identifié en tant que punk. Mais après, je trouve que la musique punk est forcément violente vu qu'elle casse les codes. Voilà, c'était ça que je voulais te dire.
Je suis d'accord, j'ai dit en une phrase, mais... Quand les punks arrivent en 76, 77, 78, quand on voit des... Alors pas forcément les crêtes, parce qu'elles arrivent tard, effectivement, enfin tard par rapport au tout début, mais c'est quelque chose qui effectivement produit de la violence. produit de la violence. Et quand j'ai parlé des images, en fait, j'essayais de me centrer sur des choses qu'on avait déjà vues. Mais quand on voyait des images tournées même à la télévision anglaise, où on voit les gens, quand le caméraman prend le regard des passants qui passent à côté des punks, il y a du désarroi, il y a de la peur, il y a de la crainte, il y a de l'incompréhension. Donc tu as tout à fait raison. Il y a quelque chose qui se passe et qui renvoie à ce que la première question qui a été posée tout à l'heure, à la mise en scène du corps, la mise en scène de soi. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là font peur, quoi? Oui, ouais, mais la différence est travaillée, toi. C'est pas une différence.
Ouais. On va juste prendre une dernière question tout devant ici.
Ouais, moi j'ai un peu une analyse qui est différente par rapport à la violence dans le punk. Bon, je prends un exemple strasbourgeois que je connais bien et qui tend plus à justement éliminer tout type de violence à l'intérieur du groupe. Dans le sens où on essaie de créer des zones qui sont plus ou moins sécurisées pour les minorités, qu'elles soient je sais pas, sexuelles. Voilà. Et je trouve, donc, dans cet exemple strasbourgeois, que c'est pas un cliché, mais que le punk avec la crête est dépassé par rapport à ça et qu'on est beaucoup plus structuré maintenant qu'on pouvait l'être à l'époque. Donc je sais pas si c'est peut-être un cliché parce que je passe vraiment sur 2017, mais on tend plus vers justement suppression de la violence.
Alors c'est quelque chose que j'avais, bon j'en ai pas parlé, mais je l'avais anticipé dans ma réflexion. C'est une sorte de normalisation et de polissage du punk. Alors c'est assez, enfin c'est paradoxal, mais ce que je veux dire c'est assez paradoxal, mais c'est un polissage et une normalisation du punk alors même qu'il se radicalise politiquement et qui justement va par exemple rendre insupportable la prestation d'Oliver l'autre jour quand il a en plus sur son jean écrit sus ma bite, etc.
Bon. Cette personne serait fait sortir de n'importe quel concert à Strasbourg par exemple.
Oui d'accord, peut-être que ça fait sortir à Strasbourg, mais en tout cas c'est fait sortir à Caen et bon c'est pas un hasard. Bon, alors, en tout cas pour revenir là-dessus, pour revenir sur ce que tu dis, je voudrais te répondre parce que pour moi c'est vraiment un point important, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui effectivement une évolution de la culture punk qui fait qu'on arrive à une radicalité des positions, et y compris sur par exemple l'antisexisme, l'antispécisme, etc., avec le véganisme, qui est aussi une façon de se dire, mais quand on doit aller au baston contre les nazis, il vaut mieux être clean, entraîné et tout, parce qu'on peut leur répondre, alors que si on est défoncé, on se fait éclater la tête, etc. Il y a des positions comme ça. Maintenant, ça fait partie justement de la... On en a parlé hier rapidement de la définition. On s'aperçoit qu'il y a une grande variété d'identification à la culture punk avec des modalités, des modes de fonctionnement qui aujourd'hui sont très différents et très éloignés. Et ce qui s'est passé à Caen, c'est ce que tu dis par rapport à Strasbourg, il y a eu des tensions qui se sont produites. Mais quand même, fondamentalement, ça c'est un truc quand même, enfin, je vais terminer par là, mais quand j'étais gamin, bon, j'ai eu très tôt des boucles d'oreilles, mais je n'étais pas punk, enfin, je traînais pas avec ceux qui se définissaient comme punk. Mais mes copains punk, ils n'avaient pas de boucles d'oreilles. Pourquoi ? Parce qu'au baston, tu te rends vulnérable. On t'arrache l'oreille. Bon, voilà, mais c'est donc tout d'un coup, les mecs, ils enlèvent. Dans un premier temps, c'est une façon de dire on vous emmerde, et après, t'enlèves tout parce que justement, au baston, il faut pas que tu sois, qui est prise sur ton corps et que tu sois justement invulnérable, quoi. Voilà. Donc ça fait partie aussi des. Alors qu'aujourd'hui, toi, tu nous dis, ben, la violence, elle est bannie parce que justement, on pacifie les espaces et on va travailler sur la négociation. Au lieu de virer quelqu'un manu militari, on va lui dire calme-toi, etc. Puis le groupe va faire que la personne va être exclue sans qu'il y ait forcément besoin de bastonner parce qu'on va travailler là-dessus. Alors c'est une violence, oui bien sûr, c'est une forme de violence, mais qui ne passe pas par la violence physique qui est jugée comme étant moins acceptable.
Merci beaucoup.